Bien, bonjour à tous et à toutes, et nous allons attaquer aujourd'hui, de très nombreuses questions, parce qu'il y a 5 pages, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, de ce fait, nous savons qu'il y a eu encore de nouvelles questions qui sont arrivées, qui ne sont pas notées dans ce document. Donc, il y aura, dimanche prochain, une prochaine conférence qui, bien sûr, répondra, à toutes les questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui. Bien, alors commençons par Denise. Peux-tu nous parler un peu plus de ces changements de fil du temps? Concrètement, on le voit ou sent comment? Ça change quoi dans notre comportement à avoir? Alors déjà, dans un premier temps, la notion de temps que nous avons est absolument, on va dire, fixée en 3D, 4D sur un temps linéaire. Donc c'est une obligation, entre guillemets, par rapport à l'expérience que nous devons faire. Mais le temps en dehors de cet espace-temps de 3D, 4D, eh bien, n'a absolument pas du tout le même fonctionnement, puisque d'une certaine manière, il n'existe pas. Voilà, donc, c'est quand on dit on a changé de fil du temps, on va dire on a changé de scénario, pour être plus précis. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, des. C'est comme un plongeur dans l'océan. Et eh bien, imaginez que vous êtes à 300 mètres de fond. Eh bien, vous n'avez pas le même scénario si vous êtes à 250 mètres. Et pas le même quand vous serez à 50 mètres de profondeur. C'est-à-dire que la pression exercée n'est pas la même et votre corps ne réagira pas de la même manière. Donc quand on dit qu'on a changé de fil du temps, ça veut dire que le scénario qui était prévu, il y a encore quelque temps de cela, était un scénario qui passait de 300 mètres de fond à 400 mètres de fond, c'est-à-dire qu'on allait s'enterrer encore beaucoup plus dans la densité pour en arriver quasiment à l'extinction totale. Là, eh bien, changer de fil du temps, c'est simplement on est passé de 300 mètres à 250 mètres. Et puis après à 200 mètres. Alors, qu'est-ce que ça amène comme chose dans la vie de tous les jours? C'est que, eh bien, les probabilités, c'est-à-dire ce qui se passe devant, ne sont plus du tout ce qui a été prédit. Donc, des prévisions style Nostradamus et d'autres et d'autres et d'autres ne sont plus valables, tout simplement. Donc, c'est un champ de probabilité qui est différent. Voilà ce que ça veut dire un changement de fil du temps. De toute façon, à fur et à mesure qu'on avancera dans les articles et les vidéos que je vous fais, eh bien, les choses vous deviendront de plus en plus claires. Mais, comme dirait l'autre, il y a un certain nombre de concepts à prendre en ligne de compte au départ. Et nous verrons ça tout le temps de cette webconf, des autres webconf et de tout ce qui va venir sur le blog parce que, comme je vous l'avais dit, maintenant je donne un certain nombre d'informations, même si les gens ils comprennent rien, c'est pas grave, ils comprendront ça dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être jamais, et c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus véritablement le temps d'attendre que la moyenne augmente et que l'on se contente de délivrer juste ce qui est compréhensible par la moyenne. Il y a quand même des personnes qui avancent beaucoup et qui ont besoin de ces informations, et si on les donne pas, ben c'est eux qui sont pénalisés. Or, qu'est-ce qui fait avancer la moyenne? C'est surtout ceux qui sont pas en avance sur leur temps, mais qui pédalent un peu plus vite que les autres. C'est eux qui font avancer, hein. Donc voilà. Il y aura donc des informations de plus en plus précises concernant certains domaines, et progressivement vous arriverez à mieux concevoir ce qui se passe. Mais il y a la notion de conception qui est une conception mentale, et vous aurez celle de comment vous allez la vivre, et c'est ça qui est la différence. C'est-à-dire que je peux vous décrire ce qui se passe à 250 mètres de profondeur. Mais si vous êtes à 300, vous aurez peut-être du mal. Mentalement, vous direz oui, c'est comme si, c'est comme ça. Mais quand vous y serez, vous verrez que votre corps aura des réactions différentes et des choses s'ouvriront que vous ne pouviez pas imaginer. Donc pour un poisson qui se retrouve toujours au fond du lac, on va dire à 300 mètres, c'est sûr que si vous le ramenez à 1 mètre de la surface, il va pas comprendre c'est quoi le soleil. Il va pas comprendre que l'eau est beaucoup plus chaude, que la pression est beaucoup plus légère, qu'il va se sentir complètement éthéré, quoi. Donc il va pas comprendre, et puis il trouvera pas le fond, quoi. C'est-à-dire qu'il verra plus le fond. Donc ces grandes habitudes qu'il avait, il va plus les avoir, puisqu'il y a plus, le fond. Donc comprenez qu'un changement de fil du temps, c'est un changement de vibration, mais qui en même temps va changer toutes les probabilités qu'il y a devant. Donc nous avons changé l'année dernière au moins 2 fois, et pour les gens qui sont suffisamment sensibles, on voit la différence. C'est un changement de pression, et ce changement de pression amène des choses qui n'étaient pas prévues d'une certaine manière. Voilà. Alors, tu dis, ça change quoi dans notre comportement à avoir ? Il n'y a pas de comportement à avoir. On est. La 5D, c'est être. Et être, il n'y a pas de comportement à avoir. Ça, c'est encore une réaction d'ajustement du mental ego qui essaye de suivre la musique. Maintenant, une question de Théo. Ces derniers temps, il m'est venu une idée que la notion espace-temps est une relation avec la séparation des facettes et plans d'incarnation. 1D, 2D, 3D, etc. C'est-à-dire que cette séparation est la conséquence de la capacité de l'envergure de l'entité incarnée à se connecter avec son soi supérieur, juste au-dessus de son plan d'incarnation. Or, si aujourd'hui cette notion de temps nous paraît comme rétrécie accélérée, est-elle due tout simplement à nos capacités accrues de connexion avec notre soi supérieur, lequel vit dans la dimension éternelle présent. Alors, je vois bien la construction, simplement, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, avoir des connexions accrues avec notre soi supérieur est toujours une bonne chose, une meilleure chose. Mais il y a, en dehors de cela, des actions, on va dire, mécaniques. Et ces actions mécaniques, ce n'est pas nous qui les décidons. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons Maman Urantia Gaïa qui a accéléré sa fréquence, parce qu'en fait le noyau central a, on va dire, accéléré sa rotation. Donc en accélérant sa rotation, eh bien ça a amené une distorsion dans les différentes grilles, et donc notre perception, bien que la planète tourne toujours en 24 heures autour du chaque jour, et qu'elle tourne toujours en 365 jours autour du Soleil, eh bien même si ça n'a pas modifié, eh bien il faut savoir que la bille sur elle-même, même si sa vitesse extérieur n'a pas modifié, sa vitesse intérieure a été modifiée. Et donc forcément, notre conception à ce moment-là du temps va changer, puisque le bocal dans lequel nous sommes, même s'il va apparemment à la même vitesse, eh bien, il y a des mouvements à l'intérieur. Imaginez que vous êtes dans un train qui roule à 300 km/h. Vous allez me dire, ouais, il roule toujours à 300 km/h. Très bien. Mais si vous mettez à courir dans le train, la vitesse que vous allez prendre en courant dans le train va influencer la vitesse finale, en fait. Extérieurement, le train avancera toujours à 300 km/h. Mais vous aurez un plus ou un moins, ça dépend dans quel sens vous allez courir par rapport au sens du train. Donc c'est pour ça qu'il y a des paramètres autres qu'il faut prendre en considération. Ensuite, il y a un autre paramètre, c'est la quantité d'informations qui est envoyée par Papa Soleil. Et ça aussi, bien sûr, influence. Donc, ce que nous nommons les vents solaires, etc., sont des paquets d'informations qui, progressivement, nous atteignent de plus en plus, car vous savez que les impacts extérieurs sont différents selon, on va dire, la rotation de la bille. Donc si la bille tourne très vite, cette information extérieure va être de moindre importance. Mais si elle tourne lentement, elle va sentir beaucoup plus lourdement ces informations. Donc il y a plein de paramètres, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a donc l'aspect intérieur. C'est pour ça que je parlais du temps-espace. Hein, et nous allons aborder cette question de plus en plus. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, c'est en fait de l'espace solidifié. Et qu'un espace, c'est un temps solidifié. Donc, il y a des notions à prendre en compte, et c'est pas simple par rapport au système dans lequel nous sommes. Mais plus nous allons augmenter notre fréquence et plus on va augmenter nos connexions et plus on va ressentir ce qui se passe et on va comprendre beaucoup plus intuitivement ce qui la réalité des choses. Mais tant qu'on reste à un niveau, on va dire, de vibration bas, eh bien, on peut après élaborer tout ce qu'on veut mentalement parlant. Mais c'est pas comme ça forcément que ça se passe. Alors, une question de Bruno. Peux-tu nous parler de ce qui serait notre double selon le dédoublement des temps, la précession des équinoxes ou les 26 000 ans environ qui correspondraient à l'ère du Verseau actuel? Ce double a-t-il la capacité d'arranger notre futur pendant la nuit en empruntant les couloirs du temps alors que notre corps incarné fait ce qu'il peut pendant la journée en termes de pensée, de mental ego, d'émotion? Ce double est-il notre soi supérieur, notre particule d'esprit? Alors maintenant, c'est pas nouveau cette théorie du dédoublement. Il faut savoir que quand elle a été pondue, nous étions bien avant 2012. Hein, c'est-à-dire que ça correspondait à un enseignement qui a été donné pour des gens qui étaient quand même fortement englués, on va dire, dans la 3D et qui n'étaient pas encore sous la vibration de 4D. Et comme maintenant vous le savez que le temps est une pure illusion, le dédoublement du temps en fait partie. Quand vous échafaudez des théories sur le temps, dites-vous bien que vous échafaudez des théories illusoires, parce que le temps est illusoire. Donc pour moi, la théorie du dédoublement du temps a eu un impact important auprès d'un certain nombre de personnes pour les faire... leur faire bouger leur cul d'une certaine manière et leur faire prendre conscience d'un autre mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, je pense que cette théorie est tout simplement dépassée. Pour moi, c'est du has-been, dans le sens que nous avons justement changé de fil du temps. Alors, fut une époque, on pouvait effectivement considérer que cette théorie pouvait effectivement être en connexion soit avec le soi supérieur, soit avec notre particule d'esprit, qui est relativement la même chose, je vous signale. Et c'est ce que j'avais fait à une certaine époque. Aujourd'hui, personnellement, la théorie du dédoublement du temps, je l'ai mis à la poubelle, comme j'ai mis à la poubelle la théorie de la relativité d'Einstein, qui a fait son œuvre par rapport à un certain niveau de connaissance, mais qui aujourd'hui est un frein à l'avancement, puisque cette théorie, entre guillemets, impose des limitations que nous savons qui aujourd'hui sont absolument fausses. Donc autant la relativité impose que la matière ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière, autant nous savons aujourd'hui que la lumière peut aller beaucoup plus vite que les 300 000 kilomètres secondes. C'est une évidence. Tout le prouve. Donc, il faut savoir abandonner certaines théories. Alors là, bah, c'est pareil pour moi. Jean-Pierre continue sur sa foulée. J'ai acheté un de ses derniers bouquins et en fait, c'est du baratin. En fait, il continue sur pour faire du business et puis c'est tout. Dites-vous bien que le nouveau monde va apporter beaucoup de changements. Donc, ce qui a été va être mis en cause. Parce que c'était une marche. Donc elle a fait faire du progrès à beaucoup de gens, mais faut pas s'arrêter à cette marche-là, il faut continuer à avancer sur la prochaine marche. Hein, je crois que j'avais déjà écrit là-dessus. Donc il faut savoir abandonner quelque chose qui t'a fait avancer, parce que en fait ça devient un frein automatiquement. Donc la théorie du dédoublement du temps, pour moi, c'est passé à la poubelle tout simplement. Voilà. Une question de Gino. L'esprit directeur, la particule d'esprit, sont-ils en lien direct avec le subconscient? Équilibrer son masculin et son féminin, est-ce en fait équilibrer son conscient et son subconscient? Yeshua faisait constamment référence au père. Est-ce le subconscient? Alors là, il y a trois questions. C'est trois choses, on va dire, très différentes. D'abord, l'esprit directeur n'est pas la particule d'esprit. La particule d'esprit est une partie de l'esprit directeur. Hein, il faut savoir que l'esprit directeur peut s'incarner dans plusieurs véhicules différents en même temps. Donc, ce qui veut dire qu'il peut avoir plusieurs particules d'esprit, mais lui reste l'esprit directeur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sont-ils en lien direct avec le subconscient? Alors, là, pareil, gros problème de définition. Il y a le conscient, l'inconscient et la frontière entre les deux qui s'appelle le subconscient. Donc, le subconscient, c'est simplement la zone de la frontière qui dit, bon, est-ce que parmi ces choses conscientes, qu'est-ce que je peux retenir pour le mettre dans l'inconscient, c'est-à-dire qui va fonctionner automatiquement. Donc si, par exemple, pendant, on va dire, 3 jours, vous pensez un truc, mais avec une certaine énergie, pendant 3 jours, le subconscient va se dire, tiens, ça fait 3 fois de suite, ça alerte mon attention. Si vous faites ça pendant 7 jours, voire 21 jours, et puis même ça peut aller jusqu'à 40 jours, car tout cela dépend jusqu'à quel niveau de corps vous voulez graver cette information. Mais si vous répétez une chose, sachez pendant 21 jours, eh bien, cette information consciente viendra se graver dans votre inconscient et ne sera pas remise en cause. Ok ? Donc, l'inconscient, c'est simplement toute la machinerie qui fait que vous pouvez, on va dire, fonctionner sans avoir à penser à tout ça en même temps. Donc, vous portez votre attention sur une chose, et donc, sur un petit caillou du chemin. Mais en fait, l'inconscient, c'est la somme de tous les chemins que vous avez faits et de tous les cailloux que vous avez trouvés. Vous ne pouvez pas tout vous rappeler, mais c'est là. Et donc, c'est disponible. Donc, pour les personnes qui, effectivement, sont en contact avec leur soi supérieur, eh bien, cette information qui est dans l'inconscient peut devenir, à ce moment-là, de nouveau conscient. Ok, donc, le subconscient, c'est une frontière, c'est tout. Équilibrer son masculin, son féminin, est-ce le fait d'équilibrer son conscient et son subconscient? Donc là, toujours pareil, il n'y a pas d'équilibrer le conscient et l'inconscient, puisque ce ne sont pas des polarités du tout. Et donc le subconscient, comme je le disais, c'est pas ce que tu penses. Donc il faudrait que, Gino, tu parles de inconscient plutôt que de subconscient. Mais le masculin et féminin, ce n'est pas ça. Regarde au niveau du cerveau, tu as, bon, on va dire, 2 hémisphères, un droit, un gauche, un masculin, un féminin, et ils sont aussi bien devant que derrière. Or, la partie consciente de toi est au niveau du front, la partie inconsciente est derrière. Donc, tu as bien un mixte, c'est-à-dire que tu as un féminin conscient et un féminin inconscient, ainsi qu'un masculin conscient et un masculin inconscient. Donc, il existe dans les théories du management, eh bien, le cerveau gauche, le cerveau droit, mais aussi le frontal et celui qui est en arrière. Et il y a des bouquins entiers là-dessus. Joshua faisait constamment référence au père. Est-ce le subconscient? Donc, même si je traduis subconscient en inconscient, non, ça n'a rien à voir. Le père, ça n'a rien à voir. Le père est dans la totalité de toutes tes cellules. C'est-à-dire que c'est ce qui fabrique, on va dire, même la matière de tes cellules. Donc, il n'y a pas de conscient et d'inconscient à ce niveau-là. Disons que c'est nous qui sommes inconscients de sa présence. Enfin, on se croit tellement séparés que on dit, oui, il est quelque part. Mais il n'est pas dans notre inconscient, il est dans chaque cellule. Dans chaque atome de ce qui nous entoure, en fait. Partout. Une question de Chris 69. Comment entrer en contact et travailler avec un guide de l'invisible? Alors d'abord, tu entres pas en contact, c'est parce que c'est pas de ton fait véritablement. Enfin, c'est pas dire voilà, aujourd'hui je vais rencontrer mon guide, voilà, comment je vais faire. Ça marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, ça va dépendre principalement de ton être-té et de ton intention véritable. C'est-à-dire que si tu as l'intention de vouloir rencontrer quelqu'un de l'invisible, eh bien, ça va s'exprimer, on va dire, dans ton aura. On va dire, Donc, ça va s'exprimer. C'est déjà une première chose. Et puis, la deuxième, eh bien, ne répondra à l'appel que ceux qui sont capables de pouvoir te répondre au niveau de fréquence à laquelle tu es. Donc, si tu es à un certain niveau de fréquence, on va dire minima, déjà en disant l'invisible existe, c'est déjà un grand pas, parce que pour beaucoup, tout ça, c'est des conneries. Donc, tant qu'ils n'auront pas accepté le fait qu'il y ait des entités de la vie dans l'invisible, dans ce que nous ne voyons pas avec les yeux, eh bien, ils se bloquent, ils ferment la porte. Donc, si tu dis il y a l'invisible et j'ai l'intention de rentrer en contact avec et je laisse faire, parce que dites-vous bien que c'est surtout votre mental ego et votre volonté qui va bloquer les choses. Hein, plus vous voudrez, et moins vous aurez, puisque de l'autre côté, dites-vous bien que quand il regarde, il voit votre mental ego, il voit votre petit ego, le faux ego. Et donc ça, ils aiment pas du tout, parce que, par définition, le petit ego n'est pas dans les lois de l'un. Il est celui qui va te mettre tous les bâtons dans les roues pour que tu ne découvres pas les lois de l'un. Donc, bah, imagine que tu dis voilà, j'aime pas le ketchup la personne qui se présente sans le ketchup. Donc, tu ça va pas aller quoi. Donc, les êtres de l'invisible ne te contacteront pas tant que tu n'auras pas atteint, on va dire, une certaine fréquence. Et donc, les premiers avec qui tu vas pouvoir rentrer en contact, outre, bien sûr, qu'on soit supérieur, va être, on va dire, les êtres de la nature. Donc la nature, maman la Terre, c'est la première des étapes. Et donc c'est là un des 2D. C'est la première des étapes, hein, commencer déjà à ressentir l'aspect des élémentaux. Et puis, progressivement, eh bien, en montant en fréquence, petit à petit, eh bien, de ces élémentaux qui vont commencer à te parler, eh bien, tu vas avoir des êtres de la nature, c'est-à-dire de 5D, 6D, c'est-à-dire c'est comme des élémentaux, mais avec une complexité un tout petit peu plus grande, parce que un élémental, par définition, vit, bien sûr, son instant présent, donc le temps, lui, n'existe pas, et il ne sait même pas ce que ça veut dire, hein, il n'a pas ce concept du temps. Et c'est une entité simple, dans le sens où il va pas essayer de conceptualiser, il est. Et donc les élémentaux qui sont en 1D, 2D sont des êtres de très grande pureté, qui vivent vraiment leur instant présent total. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous allons dans la nature, le simple fait de s'harmoniser avec eux nous fait un bien fou. Et je dirais, il est vital. Il est vital. Ensuite, eh bien, quand on est déjà mieux dans sa peau, on est plus à l'aise et on est ouvert, eh bien, à ce moment-là, se présenteront des êtres de la nature de 5D, 6D. C'est-à-dire, ces êtres de la nature sont des entités comme nous, hein, avec des traditions, avec des us et coutumes, avec des façons de voir le monde. Donc ils réfléchissent, ils ont aussi une notion de conception, c'est-à-dire que ils conçoivent quand même des choses, pas conçoivent mentalement, hein, conçoivent les choses et vont essayer d'améliorer leur être-té, parce qu'ils sont dans l'être-té, mais vont améliorer, on va dire, leur technologie. Un élémental n'a aucune technologie, il n'a rien à développer, il est. Vous voyez, c'est ça la différence, c'est pour ça qu'on dit élémental. Et c'est pas péjoratif. Et donc, quand ils sont en 5D, 6D, si par exemple je prends les nains, eh bien, les nains, ils ont leur histoire. Et ils ont leur vie. Et on va dire, d'une certaine manière, je vais pas dire leur karma, mais ils ont une évolution. Ce qui n'est pas le cas d'un élémental, véritablement. L'élémental est. Et ça lui suffit. Il fait son taf. Quand on est en 5D, 6D, là ça joue différemment, il y a bien sûr un contact, un respect avec tous, forcément. Tout le monde bosse dans les lois de l'art, mais chacun sa personnalité. Et c'est marrant de voir que, en fait, ils ressemblent étonnamment au monde des humains. Ils sont vraiment simplement avec le côté involution en moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas idée de cela. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'illusion comme nous. Donc, quand tu rentres en contact avec les êtres de la nature, à ce moment-là, eh bien, ça commence généralement par des êtres qui sont assez connectés à la Terre, en règle générale, mais bon, ça dépend des personnes et de leur chose, mais ils peuvent se connecter aussi à des fées, ils peuvent se connecter à d'autres règnes, et puis petit à petit viendra à ce moment-là ce qu'on appelle des dragons, Alors, il y a les dragons êtres de la nature, c'est-à-dire des dragons qui sont nés sur Terre, qui sont, on va dire, dans la découverte véritablement en termes évolutifs. Et puis, il y a les dragons qui sont dans les dimensions nettement supérieures, qui ne sont plus des êtres de la nature. On va dire que ce sont des êtres de lumière, alors comme ils aiment le dire, de feu, parce qu'ils sont l'esprit du sang-long à l'état pur. Donc, quand une personne commence à être en contact avec les êtres de la nature, tôt ou tard, son guide viendra. Hein? Son guide viendra. Donc, je rappelle que, par exemple, quand on dit 1D, 2D, les esprits cristallins, c'est du cristal, c'est 1D. Donc, on peut découvrir des entités à travers ce cristal, quand même, qui sont... Donc, c'est pas des élémentaux, je vous signale, hein, les esprits cristallins, à la différence des entités cristallines. Hein, donc, beaucoup de pierres ont des entités cristallines, c'est-à-dire des élémentaux. Mais vous, quand vous allez passer par exemple, des crânes de cristal, ce ne sont pas des élémentaux avec qui vous allez avoir affaire, mais des êtres de lumière, tout simplement. Et ces êtres de lumière ne sont tout simplement que vous. Mais bon, on avancera dans la description des choses à fur et à mesure que le temps passera et que votre taux vibratoire augmentera. Alors, donc, on ne rentre pas en contact et on ne travaille pas avec un guide visible. Le mot travail est typiquement humain et ça n'existe pas de l'autre côté. De l'autre côté, le mot travail n'existe pas, donc c'est pas la peine d'essayer de travailler avec eux. Votre guide vous guidera en fonction de votre aptitude à lui poser des questions et à augmenter votre fréquence. Donc, il fera en sorte que vous ayez des synchronicités ou que vous ayez des intuitions, des choses qui feront que vous direz, tiens, j'ai rêvé ça cette nuit, ou tiens, il m'est arrivé ça tout à l'heure, est-ce que ça serait pas ta ta ta, et vous lui posez la question. Et là, il vous répond. En fait, c'est lui qui a amené la chose. Mais il l'a amené sur un plan subtil pour voir où vous en êtes, comment vous avancez, et faire que petit à petit, vous appreniez à vous écouter de plus en plus et à écouter ce qui se passe dans l'invisible. Donc, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas un travail à faire. C'est pour eux un amusement, parce que, d'une certaine manière, être au service, c'est être, bien sûr, dans cette joie qui vous permet de dire, eh bien, à chaque instant, je vis ce que je suis, et j'avance dans le sens découverte de ce que je suis. Hein? Un ensemble de questions de goutte d'eau. Peux-tu donner plus de précisions par rapport au guide de l'invisible nécessaire à un moment donné? Comme je le disais, eh bien, votre fréquence, votre ouverture d'esprit, parce que les deux sont reliés, bien sûr, on ne peut pas être fermé d'esprit et augmenter sa fréquence. Ça, c'est tous ceux qui font de la magie noire ou qui sont en train de pouvoir. Dans la réalité, plus vous allez être ouvert, plus vous allez être souple, on va dire, plus vous allez être apte à abandonner ce que vous croyez connaître, ce que vous pensez être la vérité, et plus, eh bien, les choses pourront se dérouler devant vous d'une manière simple et vous pourrez avancer gentiment. Je ne veux pas dire avec innocence, mais quasiment. Quasiment. Pouvons-nous choisir notre ou nos guides? Rien à choisir, parce que notre mental ego n'a pas foutu son nez là-dedans. Donc, nous n'avons pas de choix. Se présentera à vous la partie de vous-même qui vous correspond. Oui, un dragon vous correspond. Ou bien est-ce lui ou eux qui nous choisissent? Ils choisissent pas, parce que en fait c'est une autre partie de vous-même qui joue dans une autre dimension. Vous n'êtes pas séparé d'eux. Est-ce un tacite partenariat? Oui, il est plus que tacite, il est essentiel. Hein, c'est-à-dire que les autres entités avec qui vous allez rentrer en contact et qui vont entrer, on va dire, dans votre évolution véritablement, eh bien, sont en fait des parties de vous-même. Donc, vous ne faites que relier ce qui a été apparemment séparé. Quand je dis apparemment séparé, c'est-à-dire séparé dans notre conscient. C'est nous qui nous sentons séparés. Eux, ils nous ont jamais quittés. Où nous sont-ils assignés pour une raison X ou Y ? Personne n'est assigné à quelqu'un. Il n'y a pas une entité qui va décider qu'un tel va aller avec un tel. Ça, c'est, non. Ça ne marche pas comme ça. N'avons-nous pas plusieurs guides en fonction de domaines différents ? Pour avoir déjà plusieurs guides, dites-vous bien que chaque entité avec qui nous sommes en contact est un guide en soi. Donc, si vous avez un dragon, c'est un guide. Si vous avez une licorne, c'est un guide. Si vous avez connaissez des nains ou enfin d'autres êtres, c'est aussi des guides. En fait, les gens de l'invisible, les entités de l'invisible, sont tous des guides. Simplement, il y a certains qui correspondront à ce que vous êtes véritablement, c'est-à-dire c'est vous. Alors que d'autres ne sont là que comme les copains de classe. Ils sont là pour vous aider, quoi. Parce que si vous n'aviez que vous dans une classe avec un prof, vous en auriez marre quand même arrivé à un moment. Donc, on va dire, l'environnement avec les copains, les copines autour, c'est quand même ce qui va vous permettre de pouvoir être plus détendu. Donc, moi j'ai plusieurs guides, mais qui sont de genres différents. Hein, on est d'accord, mais pour moi, c'est des facettes multiples de la même entité que d'une certaine façon je suis. Mais ça n'empêche pas que de discuter avec des tas de nains, des tas de dragons, parce que bon, on n'a pas 36 000, on n'a pas dire voilà, moi j'ai 10 dragons pour moi, non, ça n'existe pas ça. Vous pouvez avoir un certain nombre de dragons qui peuvent vous aider, mais il y en a un qui vous sera beaucoup plus dédié, on va dire. Parce que d'une certaine manière, vous et lui, vous êtes un. Au-delà du grand théorème, ouais, mais on est tous un, d'accord, hein, vous avez des affinités. Mais bon, tout ceci se révélera à fort à mesure que vous découvrirez comment ce qu'on appelle l'arbre des naissances. C'est-à-dire comment nous sommes arrivés en tant qu'esprit directeur. Comment sommes-nous devenus un esprit directeur? Donc c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie, mais pas une hiérarchie temporelle, il y a une hiérarchie vibratoire. C'est comme un arbre. Il y a un arbre, et à chaque fois qu'il y a une branche qui pousse, une autre petite branche sur la branchette, etc., etc., eh bien ils sont tous issus de quelque chose. Et donc quand on comprend ça, c'est un arbre vibratoire. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez du tronc, et plus vous êtes près de la source. Donc, les parties de vous-même sont plus ou moins proches de la source, tout dépend où vous en êtes. Or, je vous rappelle que nous sommes dans l'expérimentation, on est en fait dans une petite feuille, sur une branche, quelque part très loin de la source. Mais en même temps, nous recevons bien sûr la sève de la source. Et la source s'enrichit, entre guillemets, de l'expérience que vous avez en tant que feuille. Donc, c'est bien un partenariat. Mais après, c'est la distance qui sépare la feuille du tronc. Donc vous avez des feuilles qui sont très proches du tronc, mais vous avez des feuilles qui sont très 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 loin du tronc. Alors, que l'on en soit conscient ou non, ne sommes-nous pas tous et tous guidés depuis notre naissance par l'invisible ? Ben, si tu es guidé par l'invisible, par simplement déjà ton soi supérieur, parce que ton soi supérieur, c'est un EDL, c'est un être de lumière. Il vit bien de la 7D à la 12D, donc c'est bien un ange. Donc on est guidé, sinon on ne pourrait pas venir. De toute façon, on ne peut pas avoir, rappelez-vous, votre étincelle d'esprit et votre soi supérieur. Donc si vous n'avez pas d'étincelle d'esprit, vous ne pouvez même pas prendre conscience de qui vous êtes, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas vivre, puisque vous ne serez pas né. Hein, il faut absolument qu'une étincelle d'esprit s'incarne dans un corps, pour que ce corps prenne conscience. Sinon, ça ne marche pas. Donc vous ne pouvez pas dire, voilà, est-ce qu'on est connecté à un ange ? C'est forcé, vous ne pouvez pas faire autrement. Cette guidance n'est-elle pas évoluante en fonction de notre avancée? Le ou les guides changent quand on a passé un cap, un peu comme un prof à l'école quand on change de classe. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une certaine façon. C'est-à-dire que bah, tu commences avec les élémentaux, tu commences après avec les, tu continues avec les aides de la nature, et progressivement, tu vas aller vers des profs de plus en plus costauds, mais qui correspondront à ta capacité à pouvoir communiquer avec eux. Donc, il y a bien sûr une progression. Et puis après, bah, selon ta mission, hein, enfin ce que tu es censé être au service. Hein, eh bien, il faut savoir que vous aurez à ce moment-là certains guides qui se présenteront en affinité forcément avec votre mission. Or, si votre mission est de faire tel service ou tel service, c'est que parce que par définition, vous étiez déjà dans ce service. Si aujourd'hui, on va dire, je suis branché, on va dire, gris cristalline, c'est parce que ben, je suis dédié à la gris cristalline. Sinon, je ferai autre chose. Donc, je rencontre forcément des entités qui sont en relation directe avec la gris cristalline. Voilà, donc un électricien va rencontrer des électriciens, il va parler électricité. Un mécanicien, il va rencontrer des mécaniciens et il causera mécanique. Donc, on a été, on va dire, fabriqué pour remplir une fonction précise. Et donc, cette fonction précise, eh bien, quand on la découvre, eh bien, on est bien dans sa peau. Parce que on est en phase, on est en résonance totale avec notre vibration primordiale. Donc, l'objectif est de découvrir qu'est-ce qui nous fait résonner en termes de vibration, de fréquence. Et à chaque fois que vous faites un truc et que ça vous monte en vibration, vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'occupe de gris cristalline parce que c'est quelque chose qui est en accord avec ce que je suis. Demandez-moi pas de prendre un pinceau et de vous faire des peintures. Demandez-moi pas de faire d'autres choses, d'être un musicien. Je suis absolument nul en musique. Enfin, absolument nul. Je comprends le solfège, mais ce que je veux dire, je suis pas né avec l'oreille juste, hein, pas du tout. Alors, franchement pas. Mais il y a des tas de choses qui ne m'appartiennent pas, mais que je... C'est pas mon truc. Donc, à chacun de découvrir quelle est sa véritable vibration première. Alors, une question d'Odile. Je me pose cette question par rapport aux connexions des médiums et de ce que l'on appelle nos guides. Je ne parle pas de notre soi supérieur, et je n'arrive pas bien à saisir parmi tout ce qui se dit. Est-ce que ce sont des êtres de base astrale qui se déguisent, ou y a-t-il possibilité d'avoir réellement des êtres de lumière qui peuvent être des guides et auxquels nous pouvons nous référer? Alors, j'avais déjà fait un article là-dessus, enfin un ou plusieurs sur 3, 4, 5 guides, dès que quelqu'un se dit médium, deux pas en arrière. C'est grosso modo, quelqu'un qui est médium, c'est quelqu'un qui est en contact avec l'astral. Hein, c'est-à-dire que ça joue entre la première dimension et la troisième dimension de l'astral, donc généralement, globalement, à fuir. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Après, j'avais dit que un canal, c'est quelqu'un qui joue entre la quatrième et la sixième dimension. Et puis après, ben, quand vous êtes connecté à vous-même, c'est-à-dire à votre soi supérieur, ben, vous baladez de la septième à la douzième. Donc, vaut mieux communiquer avec son soi supérieur que communiquer avec un canal et encore moins communiquer avec un médium. Donc effectivement, si tu communiques entre guillemets avec un être de lumière, tu seras, on va dire, ce qu'on appelle le haut astral, c'est entre la 4D et la 6D. Donc là, tu as des chances effectivement de trouver quelques guides qui tiennent bien la route. On est d'accord, mais il faut savoir que tu auras la même image de la 1D en 3D médium où les entités se feront passer pour des EDL. Et en fait, ils ne sont pas EDL du tout, enfin, ce sont des êtres de lumière sombres. Donc, après, chacun va à la pêche où il veut. Donc personnellement, ben moi j'ai toujours été plutôt attiré par, on va dire, écouter ma petite voix, puis le reste après, ça me rentrait par les oreilles, ça rentrait par le nez ou par les yeux, mais j'avais toujours du recul par rapport à tout ça, parce que j'écoutais, on va dire, ma petite vibration. Si ça résonnait bien, j'ai dit ok, c'est bon, mais si ça résonnait pas, je peux vous dire que bah non, ça résonne pas, merci, au revoir. Mais ça, c'est quelque chose que soit on acquiert avec du discernement dans cette vie, ou soit des choses qui ont été travaillées dans d'autres vies. Rappelez-vous, nous vivons toutes nos incarnations en même temps. Et donc là, ça sera l'office, on va dire, d'une prochaine vidéo sous peu. Donc, quand vous savez ça, vous êtes ce que vous êtes, et de ce côté-là, moi, dès que quelqu'un me disait médium, je dis c'est bien, quoi. J'écoute, j'entends, mais ça n'allait pas plus loin. Et les médiums peuvent-ils les contacter pour nous donner des messages de guidance? Dites-vous bien que les messages de guidance, c'est dans la majorité des cas quelque chose qui va être embêtant pour vous, puisque le seul habilité à vous guider est votre soi supérieur. Le reste, ce ne sont que des panneaux et des pancartes qui peuvent vous être donnés. Alors bien sûr, des fois, votre soi supérieur est obligé de passer par des représentants parce que vous ne voulez pas le contacter directement, mais globalement, quand quelqu'un vous donne une guidance ou quelque chose, bah, on peut dire « ouais, on m'a donné des infos, mais maintenant, reste à savoir, est-ce que je vais les suivre ou pas ?» Et c'est ça toute la différence. Donc ne vous attendez pas à me voir, à aller voir des médiums pour leur demander c'est quoi mon futur et c'est quand je vais rencontrer l'âme sœur. C'est sûr qu'ils ne verront pas. C'est une évidence. Parce que c'est plutôt eux qui ont un problème. Alors juste pour référence, dans la famille où je suis né, comme disent les gens à la campagne, on a le sang fort. Ça veut dire que nous avons une capacité naturelle à pouvoir contacter, on va dire, l'invisible. Donc, j'ai nombre de mes frangines qui sont, on va dire, médiums, vous voyez, hein. Et juste ma sœur qui était juste au-dessus de moi, je suis numéro 4, hein, numéro 3, quand j'avais 12-13 ans, on discutait avec les morts, parce qu'elle, bah, elle était en contact direct avec, et puis bah, on causait, quoi. Donc pour moi, être en contact avec l'invisible a toujours été une chose banale, basique, évidente. Et donc rapidement, j'ai vu aussi, les frangines s'embarquer dans des trucs un peu à droite à gauche liés à tout ça. Et simplement, moi j'ai pris du recul, et ça ne voulait pas dire que j'étais pas connecté, mais je voyais différemment le truc. Et donc, je préférais écouter ma petite voix que plutôt passer par des entités qui racontaient ce qu'ils avaient envie de raconter. Donc, quand je parle de médium, je parle pas du voisin ou d'une voisine. J'ai grandi là-dedans, donc j'ai acquis, on va dire, un certain discernement. Une question de Laurent. Pouvons-nous utiliser les cristaux encodés pour intensifier l'ouverture de notre canal en lien avec nos guides? Si oui, pouvez-vous nous indiquer de quelle manière pouvons-nous le faire? Bah, c'est simple. Bois de l'eau encodée, régulièrement, enfin partout, en permanence. Ne bois rien d'autre. Et qu'elle soit montée en puissance au maximum, hein, mais à fort à mesure de ton élévation, bien sûr. Et les choses se feront absolument naturellement, puisque je vous rappelle que l'eau encodée a pour objectif de flinguer tous les programmes aveuglants qu'elle trouve, et les programmes inutiles. Donc ce qui veut dire que ben, plus tu te décrasses, et plus tu vas avoir de chances de pouvoir communiquer avec un guide. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Sinon pourquoi nous aurait-on donné l'eau encodée? C'est un décapant. Donc utilisons le décapant et les choses viendront en temps et en heure, naturellement. Une question d'Étoile du Sud. J'ai eu des messages concernant l'événement sur une certaine période donnée. Cela m'a perturbé car il est plus proche que tout ce que j'ai lu. Selon toi, quelles seront les conséquences sur le système monétaire, tout le monde l'a un potager, et surtout les appareils qui nécessitent l'intervention d'électricité? Pourra-t-on utiliser nos véhicules? Par ailleurs, on m'a fait comprendre que je devais plier bagages et que je ne devrais pas remettre en cause mes visions. Bon ben voilà. Alors déjà, une chose, si je reprends la dernière phrase, plier bagages, certainement, si on te l'a dit que tu vas plier tes bagages, ben, fais-toi déjà l'idée et ne continue pas à investir dans les lieux où t'es, entre guillemets, hein, puisque tu sais que tu vas t'en aller, et ne pas remettre en cause tes visions, parce que si tu remets en cause tes visions, à ce moment-là, ça veut dire que ton mental ego veut faire la loi, alors que tes visions, c'est simplement de l'intuition qui t'est apportée sur la table. Donc, à toi de choisir, soit tu suis tes visions, soit tu suis ton mental ego. Donc, on sait tout de suite où ça va mener. Tu suis ton mental ego, tu vas avoir des emmerdes maximales, tu suis tes visions, tu auras moins de mal. Alors, bien sûr, tes visions vont te demander de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Donc, le système monétaire, effectivement, on va avoir des gros ennuis. On est d'accord. Hein, ça ne pourra pas être autrement, de toute façon. Tout le monde n'a pas un potager, mais tu sais, tout le monde croit qu'avec un potager, ils vont survivre. C'est vachement bien, mais les légumes, ça met du temps quand même à pousser. Donc, quand même, si tu mets une planche de poireaux, arrive à un moment, il n'y aura plus de poireaux. Donc, il faut quand même un temps pour que tout ça, ça pousse. Or, généralement, s'il y a beaucoup d'affamés qui débarquent, et si tu as un potager, tu vas te rendre compte à l'évidence qu'il va falloir partager. Et ça, je sais que c'est une notion que les gens ne comprennent pas toujours. C'est que quand les gens sont affamés, tu peux dire « Non, c'est mon potager, vous n'avez pas le droit. » Ils franchiront la ligne parce qu'ils diront « Moi, j'ai faim et je ne veux pas crever sur place. » Et si tu nous fais chier, c'est toi qui vas crever. Donc, et là, il ne faudra pas dire « Oui, je vais appeler la police. » Parce que le policier sera peut-être dans le même état que ceux qui crèvent la faim. Donc, je dirais, ça c'est mon point de vue à moi, ça peut rassurer de dire j'ai un potager, ça peut rassurer, mais ce n'est pas une garantie à 100% que vous allez arriver à survivre parce que vous avez un potager. C'est sûr que la vie sera plus facile, mais ça va être difficile de planquer le potager pour que les autres sachent que tu as à bouffer. Donc, il faut se poser quand même quelquefois des questions, de comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous vivons avec beaucoup de gens autour de nous et que sous la pression, on va dire, de la faim, les conventions et les lois, ça va pas être très suivi. Hein. Alors, j'en étais où? Donc, l'électricité, je pense qu'il y en aura toujours, mais peut-être pas en quantité, pas dans les mêmes quantités qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent beaucoup d'électricité pour des conneries. Donc déjà, partout il y a des lampadaires. Vous imaginez bien que les lampadaires, est-ce qu'on éteint? Parce que les lampadaires, c'est soi-disant pour éviter des accidents, ou c'est pas simplement parce qu'il y a des voleurs, et s'il y a un lampadaire, ça les empêchera peut-être de venir. Ça, c'est la théorie en ville. Un jour, j'habitais à Annemasse, et puis ils ont éclairé tout le parc. Alors, le parc était clôturé avec des grandes clôtures en ferraille, quoi. Enfin, donc, personne pouvait rentrer, quoi. C'était des trucs qui montaient à 2,50 m, facile, quoi. Non mais c'était quand même éclairé avec des trucs incroyables quoi. Et j'ai dit mais pourquoi? J'ai dit vous fermez le parc tous les soirs et pourquoi les lumières? Ah bah oui parce que bon voilà on sait jamais tatati tatata. J'ai, c'est quoi c'est quand même si vous éclairez quoi c'est pas la peine de mettre les clôtures. Enfin bon bref donc de toute façon vous verrez bien l'électricité qui est utilisée d'une manière abusive, on coupera les choses parce qu'on se dira je préfère quand même que ce soit mon radiateur électrique qui fonctionne que plutôt le lampadaire dehors. Voilà, donc l'événement est beaucoup plus proche, mais c'est vrai que il vient, il arrive. Enfin bon, il arrivera quand il arrive. Une question de Brigitte. Que s'est-il passé énergétiquement le 22 janvier 2015 au niveau de la Terre? J'ai perçu ce jour-là que ses vibrations ont changé. Alors, on est le combien, 25, ouais. Donc, effectivement, il y a des points importants au niveau de la du mouvement des planètes, et il y a des certains points, comme, bon, là, on a vu la nouvelle Lune, hein, il n'y a pas longtemps, hein. Il y a des trucs, et ça va être de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais plus d'articles concernant les choses exceptionnelles qui se passent, parce que ça va devenir tellement, pas dire quotidien, mais tellement souvent que ça ne veut plus rien dire à la fin. Donc autant il était important avant de d'en parler pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Maintenant, eh bien, si plus vous allez être connecté, on va dire, à l'univers, à tout ce qui se passe, et plus vous allez vous prendre, on va dire, des coups assez sérieux. Donc moi, je sais que depuis, on va dire, une semaine, c'est minima 12 heures de sommeil par jour. C'est le minima syndical. Quand je dis 12, ça peut pousser à 18, quoi. C'est-à-dire que je suis plombé. Je suis pas le seul. Putain, toute l'équipe au sol ressent exactement la même chose. Donc, ne vous posez pas de questions par rapport à tous ces événements. Vivez-les, ressentez-les, et puis vous dire c'est. Parce que on nous en promet beaucoup. Hein. Croyez-moi que jusqu'au mois de mai, on va s'en ramasser. Après, il y aura une deuxième secousse après l'été, mais là, on va pas arrêter de s'en prendre. Hein. Alors après, bon, vous pouvez bien sûr demander à tous les astrologues, à tous ces... Voilà, mais de toute façon... ils voient peut-être des choses par rapport au niveau des planètes, mais ils voient pas ce qui se passe au niveau de d'autres dimensions. Et c'est pour ça, maintenant, il faut plus chercher à vouloir savoir, comprendre, dire, ouais, mais si, mais ça, de toute façon, ça change rien. T'es dans le four à micro-ondes, et puis s'ils décident de mettre la puissance 3, la mettre en puissance 5 pendant 2 jours, ils vont le faire. Quand je dis « ils », vous inquiétez pas, tout ce qu'il y a autour et qui font qu'on peut continuer à faire notre expérience. Donc, aujourd'hui, je fais plus d'actualité par rapport à tout ça, ça sert plus à rien. Simplement, vous subissez, on subit, on s'ouvre, on laisse faire. Votre corps est fatigué, allez vous coucher. Le film est intéressant, on s'en fout. Vous avez un rendez-vous ailleurs, on s'en fout. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est d'accord. Mais écoutez votre corps, parce que votre corps, il encaisse. Lui, votre corps, il s'en fout de ce que votre mental ego raconte. Lui, votre corps est surtout en 1D, 2D, et il doit actualiser son fonctionnement. Sinon, ben, vous allez vous choper une maladie, et comme dirait l'autre, partir dans le recyclage. Donc, votre corps fait son maximum pour rester, comme on dit, up to date, hein, c'est-à-dire à jour. Et il a besoin de repos. Et croyez-moi que le repos dont il a besoin, c'est surtout que le mental ego soit éteint. Bon, physiquement, il y a quand même une fatigue, on est d'accord. Mais que, vraiment, parce que l'autre là-haut, là, il fout un peu trop son bordel. Et il est plus un emmerdeur qu'autre chose. Donc, dormez. Enfin, quand vous sentez que vous êtes fatigué, abandonnez tout le reste. On s'en fout, ça attendra. Ça n'a pas d'importance. Alors, une question de Jean-Phi. Rampa, dans un de ses bouquins, explique le basculement des pôles par l'arrivée dans notre système solaire d'une comète ou d'une planète étrangère qui frôlerait la Terre et quelques autres de nos voisines. S'en suivrait l'arrêt de la rotation de la Terre, le basculement nord-sud, proprement dit des pôles, et le redémarrage de la rotation dans l'autre sens, le tout en 3 jours. Les fameux 3 jours d'obscurité. Cette boule dans notre jeu de quilles foutrait également le bordel parmi les autres planètes de notre système, comme le rééloignement du Soleil, la disparition de Mercure, l'apparition d'une nouvelle planète et d'une deuxième lune pour la Terre. Je me satisfaisais de cette hypothèse jusqu'à l'apparition de ton article. À présent, au vu des nouvelles informations que tu apportes, comment expliques-tu mécaniquement ce bouleversement cosmoplanétaire d'un point de vue 3D qui va réaligner la Terre et tout le système solaire, sauf Pluton, dans le plan de la galaxie, nous libérant ainsi de notre enfermement? Je suppose qu'à une certaine époque de notre espace-temps, un événement semblable mais inverse a provoqué l'enfermement et isolement du système solaire et de la Terre en particulier. Est-ce à ce moment-là qu'explosa Mulge ou Cérès, dont l'humanité privée de planètes se serait incarnée sur la Terre? Les Mulgiens seraient-ils nos ancêtres tout au moins ceux des Lémuriens? Bref. Alors, moi, les Mulgiens, j'ai jamais entendu parler. De toute façon, il existe un certain nombre de, on va dire, d'histoires, et effectivement, il y aura des transformations qui seront faites tôt ou tard par rapport au système solaire lui-même, à l'emplacement, on va dire, des différentes planètes, la deuxième lune, etc. Oui, tout ça, c'est vrai, ça va se passer. Le seul truc, c'est que ça va pas se passer dans les deux jours qui viennent. C'est-à-dire que là, il y a, comment dire, il y a une succession de choses qui vont se faire en fonction d'un calendrier. Et ce calendrier, c'est pas nous qui le décidons directement, hein, vous comprenez. Ça va être décidé en fonction de notre état d'avancement en termes d'humanité et de l'expérience que nous avons à mener. Donc quand nous allons effectivement passer en 5D, 6D, il va y avoir un certain nombre de chamboulements. Donc là, vous savez que nous sommes rentrés depuis 2 ans maintenant, 2 bonnes années, dans la 4D, véritablement la 4D. Donc on est, c'est le tout début du commencement du début du commencement. Donc il va y avoir encore un certain nombre de décennies, pour pas dire de siècles, avant que tout cela arrive. Alors autant aujourd'hui notre planète est en train de comment dire, au niveau de l'inversion des pôles, mais l'inversion des pôles ne veut pas aussi dire l'inversion de la rotation de la planète. Ce sont deux choses que l'on a associées, mais qui ne sont pas obligatoires. Et d'après un des guides avec qui j'avais parlé, ils m'ont dit que l'arrêt de la planète, et pour qu'elle démarre dans l'autre sens, amènerait des cataclysmes qui sont incompatibles avec la vie de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui va se faire. C'est clair. Mais nous, entre-temps, on aura fait escape. Et après, une fois que ça sera fait, on sera réimplanté tout simplement. Mais il va y avoir quand même une inversion de la polarité. Donc, chaque chose en son temps, mais pas les deux en même temps. Donc l'inversion de la polarité, ça commence à yoyoter, ça c'est la montée en fréquence du noyau de la Terre qui fait que la polarité commence à gigoter sérieusement. Donc cette polarité a pour objectif de nous secouer les puces, entre guillemets, pour qu'on se réveille. Et donc je précise aussi en même temps que cette inversion des polarités, qui est due principalement à l'accélération du noyau de la Terre, amène ce qu'on appelle le fameux réchauffement climatique. Et donc tout ce que la science vous apporte en termes de CO2 et tout le bordel, c'est des conneries à l'état pur.